Vous écoutez Radio France Internationale, il est 10h30 à Paris, 9h30 en temps universel et à Dakar.
Emmanuel Klotz.
Le journal En français facile, c'est avec vous Nathalie Amar, bonjour.
Bonjour.
Et tout de suite, on commence avec les titres de l'actualité de ce mardi 9 janvier 2007.
Les États-Unis ont le droit de mener des attaques contre des membres d'Al-Qaïda partout dans le monde. Commentaire du président somalien après le raid de l'armée américaine sur le sud de la Somalie. Pas de bilan, mais le ministre somalien de l'information assure qu'il y a eu beaucoup de tués.
Le Venezuela s'appellera bientôt République socialiste du Venezuela. Le président Hugo Chavez veut nationaliser des parties entières de l'économie.
Et puis en France, la fin du mouvement des enfants de Don Quichotte. L'association voulait mettre la question du logement au premier plan. Elle estime qu'elle y est arrivée.
RFI, le journal en français facile.
L'armée américaine a donc mené une attaque contre un village du sud de la Somalie.
Oui, Nathalie, les Américains pensaient que deux responsables d'Al-Qaïda se trouvaient dans le village d'Ayo. L'un d'entre eux est soupçonné d'avoir participé aux attentats contre les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie en 1998. L'autre serait un chef du réseau terroriste en Afrique de l'Est. Il y a plusieurs morts.
Commentaire du président somalien, les États-Unis ont le droit d'attaquer Al-Qaïda partout dans le monde.
Oui, le président Abdoulali Youssouf Ahmed déclare que les soldats éthiopiens qui se trouvent en Somalie ne sont pas des occupants. Ils sont juste venus aider le gouvernement transitoire à chasser les islamistes du sud du pays. Ils repartiront dès l'arrivée d'une force de maintien de la paix, a-t-il expliqué.
Toujours en Afrique, la suite du procès de Tarsis Renzao devant le tribunal pénal international pour le Rwanda.
Le représentant du procureur a expliqué que l'ancien haut fonctionnaire rwandais avait transformé sa préfecture de Kigali en un vrai centre de commande pour le génocide de 94. Lui a écouté sans rien dire.
Ce procès est sans doute un des derniers grands procès du TPIR puisque l'ONU lui a demandé de terminer ses travaux en 2008.
On peut donc commencer à essayer de tirer un bilan. Sur cette question, écoutez l'avis de Patrick Baudouin qui est le président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme.
Seulement quelques-uns des principaux cerveaux ou des principaux responsables du génocide rwandais auront effectivement été jugés. C'est une appréciation en demi-teinte qu'on peut avoir sur ce tribunal. D'abord, il faut souligner qu'il n'avait pas de limitation de durée, qu'il est peut-être un peu dommage de ne pas lui laisser une ou deux années de plus, je dirais, au point où on en était depuis le génocide de 1994. Mais bilan en demi-teinte parce que on a jugé un certain nombre des responsables, pas suffisamment à notre gré, mais il y a eu quand même quelques côtés assez exemplaires. Bon, il y a eu un arrêt de condamnation pour génocide et c'est la première juridiction internationale qui prononce cette condamnation pour génocide, donc c'est quand même important. Il y a eu aussi un arrêt d'acquittement, ce qui prouve que c'est une justice qui n'est pas à sens unique. Il y a eu le procès des médias rwandais. Donc tous ces éléments sont à mettre tout de même à l'actif, je pense, de cette juridiction qui a été parfois décriée, dont les résultats sont insuffisants mais ne sont pas négligeables.
Patrick Baudouin avec Muriel Pomponne.
De violents combats en plein Bagdad ce matin.
Oui, ça dure depuis 4 jours dans le quartier sunnite de Haïfa Alaoui. Les militaires irakiens s'opposent à des moudjahidines, des sunnites qui ont pris les armes. On n'a aucun bilan pour le moment.
Et le président américain George Bush doit présenter sa nouvelle stratégie pour l'Irak demain.
Petite indiscrétion déjà, un sénateur qui l'a rencontré révèle que le président américain compte envoyer 20 000 soldats supplémentaires en Irak.
George Bush qui a choisi le nouvel ambassadeur des États-Unis à l'ONU.
Comme prévu, c'est Zalmay Khalilzad qui a été choisi pour remplacer John Bolton. Jusque-là, Khalilzad était ambassadeur en Irak et à Bagdad. Il sera remplacé par Ryan Crocker qui était lui ambassadeur au Pakistan.
Au Venezuela, Hugo Chavez nationalise des secteurs entiers de l'économie. Il veut créer une république socialiste.
Le président nationalise l'électricité et le téléphone et il prévient: tout ce qui a été privatisé doit être nationalisé. Hugo Chavez vient juste d'être réélu pour 6 ans à la tête de son pays. Il annonce aussi un changement de la constitution et même le nom du pays va changer. Désormais, il faudra parler de la République socialiste du Venezuela.
L'ancien premier ministre Mahendra Chaudhry rejoint le gouvernement intérimaire des îles Fidji.
C'est un ralliement important pour Vorek Bainimarama qui a pris le pouvoir grâce à un putsch au début du mois de décembre. Mahendra Chaudhry est en effet une personnalité de la minorité minorité indienne. Il avait même été le premier chef du gouvernement d'origine indienne dans l'archipel. Il avait été renversé par un coup d'État en l'an 2000. Il a pris la fonction de ministre des Finances.
Les négociations à propos du pétrole russe qui transite par la Biélorussie. Le vice-premier ministre biélorusse, Andrei Kabiakov, est à Moscou.
Il a rejoint le vice-ministre de l'économie qui négocie depuis hier. On le sait, la Russie a coupé le flux du pétrole qui va vers l'Europe et qui passe par la Biélorussie. Elle accuse Minsk de se servir au passage. En fait, on sait que la Russie n'accepte pas que la Biélorussie ait imposé une taxe sur ce passage.
Les routes du pétrole, on le sait, sont très stratégiques. Un accident a eu lieu cette nuit dans la zone où circule le plus de pétroliers dans le monde, le détroit d'Ormuz.
Ce détroit se situe entre le golfe Persique et la mer d'Oman. Un sous-marin à propulsion nucléaire américain est entré en collision avec un navire marchand japonais. Il n'y a pas de victimes, mais une enquête est en cours.
Ce détroit est contrôlé par Oman et l'Iran, qui menace d'ailleurs souvent de le bloquer. L'Iran, où on apprend une information étonnante ce matin, 3600 habitants de Téhéran sont morts à cause de la pollution en un mois.
Oui, la capitale irakienne est une des villes les plus polluées du monde et le responsable du comité de l'air s'inquiète. Il explique que toutes ces personnes sont mortes de crise cardiaque. Pour lui, la situation est grave. Il parle de suicide collectif.
RFI 10h36. En France, les enfants de Don Quichotte mettent fin à leur mouvement.
Cette association s'est fait connaître en installant un village de tentes pour les sans-abri à Paris. Grâce à elle, on a beaucoup parlé des problèmes du logement. Le président Jacques Chirac a annoncé des mesures lors de ses vœux de fin d'année et un plan d'urgence a été mis en place. Le nombre de lits pour les sans-domicile fixe, les SDF, va doubler. Jean-Baptiste Legrand, qui fait partie des enfants de Don Quichotte, estime qu'il a obtenu à peu près ce qu'il voulait.
Je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience de tous les Français. Il y a eu ce consensus politique, il y a eu toutes les associations qui d'une même voix ont dit « oui, c'est vrai, il faut que ça change aujourd'hui ». Et c'est pour ça qu'il y a eu ce déclic. Et ça fait des années que les associations le disent. Maintenant, il fallait juste être entendu. Et on a juste joué ce rôle de haut-parleur, de sonnette d'alarme en disant « c'est fini, il faut que ça cesse aujourd'hui ». Et il y a une prise de conscience qui a entraîné les mesures. Il y a plein de facteurs qui y ont joué. Il y a l'hiver, Noël, les fêtes. Il y a la campagne électorale d'un côté, mais voilà, il y a énormément de facteurs. Je pense que c'était le moment où il fallait le faire et je suis très très content aujourd'hui que les décisions aient été prises aujourd'hui et pas dans 6 mois après la campagne électorale.
Le village de Tentes de Paris est aménagé le long du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement et sur place, les sans-abri ne sont pas vraiment enthousiastes. Laurence Théo est allée s'en rendre compte.
Aucun signe de joie le long du canal Saint-Martin. Les tentes des sans-abri sont fermées et le temps est maussade, tout comme l'humeur de certains SDF réunis autour d'une bière dans le café du coin. Ils ne semblent pas croire aux propositions du gouvernement.
Il n'y a que les promesses, mais il n'y a rien. À la vérité, il n'y en a pas.
Soi-disant, il y a des gens qui vont être logés et d'autres non.
Que ce qui a été promis, on n'est pas contre. Mais dans combien de temps? On nous dit dans 3 semaines. Moi, nous, on ne vit pas dans 3 semaines, on n'est pas des blabla. C'est nous qui vivons dans les tentes. Ces gens-là, ils ont des maisons.
Ahmed tire sur une cigarette accroupie devant sa tente. 10 ans de rue et des exigences.
Moi, ce que je veux, c'est un appartement. J'ai pas besoin de foyer. Les foyers, ça m'intéresse pas. Je préfère rester dormir dehors dans ces cas-là.
Rester dehors, car une vraie maison reste encore un rêve pour les sans-abri du canal Saint-Martin. Ils ne savent pas que dans le campement de Lille, on s'affaire déjà à replier les tentes.
Les vœux de Jacques Chirac suite des cérémonies cette semaine à l'Élysée. Ce matin, le chef de l'État présentait ses vœux aux fonctionnaires. L'égalité des chances, dit-il, doit être au cœur du débat pour la prochaine présidentielle. À quelques jours du congrès de l'UMP, Alain Juppé fait savoir qu'il soutient Nicolas Sarkozy.
L'ancien Premier ministre explique pourquoi sur son blog. Il apprécie la capacité d'agir du ministre de l'Intérieur. Alain Juppé a longtemps été présenté comme l'héritier politique de Jacques Chirac et on notera qu'il soutient donc Nicolas Sarkozy alors que d'autres proches du chef de l'État comme Jean-Louis Debré ou Dominique de Villepin se sont montrés plus réservés. Ils ont annoncé qu'ils ne voteraient pas pour lui.
Et puis c'est la fin du voyage de Ségolène Royal à Pékin.
La candidate socialiste à l'élection présidentielle assure que la Chine sera une des priorités si elle est élue. Elle souhaite une nouvelle relation avec la Chine et précise qu'elle se rendra à nouveau dans le pays très rapidement si elle devait devenir présidente. C'est d'ici que viendra un nouveau modèle de développement, assure-t-elle. Chaque époque a besoin d'être réinventée. Vous écoutez Radio France Internationale, il est 10h40 à Paris, 9h40 en temps universel. Restez à notre écoute, l'information continue sur RFI.